Les PropTech Digital Days, saison 2. Un événement organisé par le label Rint pour découvrir les innovations dans la PropTech les 31 mars et 1er avril 2021.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde édition des PropTech Digital Days by Rint. On est ensemble pour deux jours pour découvrir l'innovation dans l'immobilier, deux jours pour partager, pour échanger. 20 conférences, 32 ateliers, 4 Startup Labs à voir ou à revoir en live et en replay. Le programme est en ligne, c'est à vous de choisir. Rint, c'est aussi un accélérateur de business, vous le savez. Cette édition, c'est plus de 120 acteurs de la PropTech qui sont présents sur la marketplace et qui se présentent à vous avec des vidéos, des présentations. Vous pouvez bien évidemment prendre rendez-vous avec eux et faire des rendez-vous en visio. Ils proposeront également des webinars en ligne. On est parti pour deux jours et on commence tout de suite avec une conférence en live. C'est Nathalie Gardès qui va vous présenter tout ça. Nous, on se retrouve à 13h pour le JT de la mi-journée avec l'ami Vincent Le Camus, spécialiste de la PropTech. Préparez vos questions et vos suggestions. D'ici là, bon pididi à tous.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à remercier donc Christine, Stéphane, Yann et Olivier qui est à distance d'avoir répondu présent à cette table ronde aujourd'hui. Alors cette table ronde, elle fait suite à une étude qualitative que j'ai conduite sur la période de juillet à septembre 2020. L'objectif, c'était de comprendre comment les acteurs avaient mené leur stratégie, comment ils avaient pris leurs décisions dans une situation d'incertitude très forte, comment finalement ils s'étaient adaptés, comment ils avaient innové et comment, in fine, ils avaient prospéré face à l'adversité et dans l'imprévu. Donc je vais faire une petite présentation sur le contexte. Le coronavirus a été pour vous tous dans la profession et puis hors de profession, une surprise majeure qui a révolutionné finalement la vie de vos entreprises, qui ont remis à plat tous les plans stratégiques que vous aviez élaborés, les prévisions aussi que vous aviez envisagées. On pourrait emprunter à Nassim Taleb l'expression de signe noir ou encore à Calvec d'épisode cosmologique pour qualifier la Covid, tant l'événement était imprévisible et tant sa portée a eu des conséquences vraiment exceptionnelles. Vous avez dû affronter une situation d'urgence qu'on peut aussi qualifier d'extrême parce qu'il y a eu une pression temporelle très forte et puis des degrés d'évolutivité aussi assez importants et on pourrait dire que ça continue encore aujourd'hui. Ce contexte a mis vos organisations sous tension, posant des problématiques de survie et donc de résilience. Donc c'est ce qu'on va un petit peu aborder aujourd'hui. D'ailleurs, ce concept, on en parle beaucoup. Il est défini comme étant un processus dynamique qui conduit à un résultat adaptatif face à l'adversité. Pour autant, cette définition est un peu floue et surtout peu opérationnelle. On pourrait se demander concrètement quelles sont les capacités distinctives des entreprises qui sont résilientes. Alors, pour pouvoir analyser la résilience de vos organisations, je me suis tournée vers les études qui étudient les entreprises qui ont survécu face à un choc important, et un choc inattendu surtout. Alors, ces études, elles mettent en lumière trois défis qu'une entreprise doit surmonter face à la crise pour entrer dans un processus résilient, trois défis auxquels sont associées des capacités. Donc, la crise, c'est d'abord, et vous allez l'aborder, un défi cognitif, et ça suppose d'avoir des capacités d'analyse, des capacités à donner sens, à comprendre une situation pour pouvoir s'adapter et prendre les actions nécessaires. Ensuite, c'est un défi stratégique aussi. Il faut s'adapter, se renouveler, bricoler, entrer dans l'action, abandonner les stratégies du passé pour pouvoir avancer. Et enfin, c'est un défi idéologique parce qu'il va falloir aussi, peut-être encore est-il trop tôt, s'approprier les leçons de cette crise, se réinventer et donc se redéfinir. Voilà, donc nous allons aborder le temps de cette table ronde, la façon dont vous avez abordé finalement ces trois défis. Et donc je vais commencer à vous poser quelques questions. Donc Olivier, Stéphane, Christine, Yann, lorsque l'annonce du confinement est tombée, qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Comment vous avez donné sens à la situation? Qu'est-ce que ça a impliqué pour vos organisations? Et comment vous avez pris vos décisions? Christine.
Plein de questions, tout ça. Donc, effectivement, quand la décision, en tout cas, de confiner est arrivée, ça a été un peu comme au bord du gouffre. On s'est dit, ben voilà, on est au pied du mur, il va falloir qu'on agisse et qu'on réagisse. Avec une vraie volonté, c'est nous avons des agents immobiliers sur le terrain qui attendent beaucoup de la tête de réseau. Donc, il fallait prendre des décisions pour leur permettre d'abord de passer au mieux cette situation et de se dire que dans l'incertitude de cette période de confinement, est-ce que ça allait durer un mois, deux mois, trois mois, six mois, c'est vrai qu'on avait peu de signes avant-coureurs, ça a été de dire, voilà, il faut qu'on trouve une solution, déjà pour les rassurer et faire en sorte, au niveau de notre réseau, de dire, on va alléger la partie financière pour déjà éviter qu'il y ait ce poids intellectuel dans la tête des associés et leur permettre d'être beaucoup plus serein en se disant, voilà, je peux voir sereinement au moins le plus possible, donc c'est ces quelques mois qui vont passer. Donc, encore une fois, on se pose même pas la question de savoir qu'est-ce qu'on doit décider, comment on doit le faire. C'est-à-dire que je pense que quand on est dirigeant à haut niveau, on a une vraie faculté à se poser tout de suite en disant, voilà, on fait. Donc, on fait et on est dans l'action. Et ce n'est pas mes confrères qui sont autour de la table qui vont me contredire. Je sais qu'ils sont aussi hyper actifs.
Il y a eu un problème de son, annonce que tout est réglé.
Apparemment. C'est bon ? Stéphane ?
Alors, déjà, l'annonce, évidemment, je suis d'accord avec Christine, mais l'annonce, je me souviens, c'était le vendredi avant le 16 mars, et c'est vrai que c'est un peu comme un choc, même si on a été prévenu déjà depuis près d'une semaine, puisque nous, on avait déjà eu le temps, je crois, de mettre tout le monde sous VPN et les réseaux privés pour pouvoir travailler à partir de la maison, parce que l'annonce était déjà là depuis près d'une semaine, en tout cas, on l'attendait. Donc, on s'y était préparé. Cependant, quand même, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. On n'a pas de visibilité sur la sortie. On ne sait pas à quel moment on va en sortir. Donc la première chose, la toute première chose, c'était la question, c'est la santé, quoi. Parce que le cas de pandémie, on n'a pas vécu tant de pandémies que ça, qu'on n'a pas vécu la peste ou les fièvres jaunes. On a eu le sida, mais c'est pas du tout de la même manière. On n'a jamais été confiné. Donc là, c'est vraiment, d'ailleurs, le président le dit, c'est un état de guerre. Donc la première démarche, c'est d'abord mettre tout le monde à couvert, quoi. C'est tout le monde, la santé qui prime. Et ensuite, les décisions viendront et se prendront quand même, somme toute, assez vite, comme dans toutes les périodes de crise. On se retrouve à avoir des comportements exceptionnels. Ça met très en avant, très en lumière, les très bons comportements, les mauvais aussi, malheureusement. Et donc, on a tout le monde qui déploie. C'est pas le dirigeant qui décide de tout. C'est tout le monde se met en action et de façon assez forte face à la crise. Et c'est du coup, le dirigeant, on revient à animer plutôt qu'à décider.
Yann ?
Oui, alors c'est vrai que si on revient un peu plus d'un an en arrière, on la voyait venir, cette période. On voyait ce confinement venir, les chiffres et les indicateurs qui nous étaient communiqués au quotidien, l'état de l'Italie qui était dramatique, les industriels qui produisaient du gel hydroalcoolique, et puis nos informations qu'on avait pêchées de ça, de là. Donc on s'est préparé, comme mes confrères, on s'est préparé d'une manière logistique, sur des accès pour travailler à distance avec des VPN, pour doter toutes les équipes sédentaires de téléphones portables, d'ordinateurs portables. Et puis il y a eu l'annonce. Bon, on a quand même pris une claque au moment de l'annonce. Ça y est, le match qu'on s'est préparé à jouer, mais qu'on ne voulait pas jouer, il est là. Il va falloir le jouer. Et puis, comme ça a été évoqué par Christine et par Stéphane, d'abord, en effet, mettre à l'abri les hommes et les femmes. Donc, ça commence par sa famille, égoïstement. Ensuite, les hommes et les femmes du réseau. Et puis ensuite, penser à mettre à l'abri les entreprises. Et très rapidement, on a compris une chose, c'est qu'on n'allait pas avoir de réponse à toutes les questions qui allaient se poser au quotidien, ou en tout cas que les réponses interviendraient après la guerre, et qu'il allait falloir être créatif. Alors au quotidien, comment on gère des états des lieux de sortie, comment on gère des compromis qui sont censés se signer la semaine prochaine, comment on va gérer finalement du chômage partiel. Donc il a fallu être très créatif et bricoler et construire ces réponses, donc archi-communiqué.
On a une vraie responsabilité, c'est de se dire, voilà, on a les équipes sur le terrain, et je pense notamment aux équipes commerciales, en se disant, voilà, ils vont se retrouver, ils se retrouvent du jour au lendemain, et comment on les tient, et comment on les maintient avec le moral, sous pression, pour qu'ils continuent à être occupés, parce qu'on avait tous une vraie conviction, c'est qu'on ne peut pas être à l'arrêt. C'est pas parce qu'on nous dit on ferme qu'on ferme la boutique et que la lumière s'éteint. C'est qu'il faut quand même continuer à être sous pression, en activité, déjà honorer les engagements clients, continuer à communiquer avec nos clients, mais faire en sorte que nos équipes elles soient prêtes à redémarrer le jour où il fallait rouvrir la lumière. Voilà. Donc ça, c'était important.
Olivier, à distance.
Pour le coup, je suis variant anglais. Oui. Paris anglais depuis cette nuit, donc je suis dans le feu de l'action. Il me paraît important de souligner les informations entrantes et sortantes. Pour ma part, j'ai eu une dizaine de jours avant l'information qu'on allait être totalement confiné, avec des dirigeants français, dont M. François Pinault avait eu l'information, et que ça allait être très significatif en termes d'arrêt de l'économie et très ennuyeux. Donc je trouve que, un, recevoir l'info le plus tôt possible, ensuite la partager avec son COMEX pour déjà dégonfler l'abcès, si je puis dire, parce que le temps et la réflexion permettent de débuter la maîtrise du sujet. Et quand on commence à maîtriser, on rentre dans l'action. Et donc là, il y a un va-et-vient et des décisions se prennent immédiatement. La première, c'est la gouvernance, bien évidemment. Tac, tout de suite, on met son équipe sur le pont. Et on donne les consignes. Et les premières, vous l'avez cité, c'est bien évidemment fermer les locaux, prendre toutes les protections physiques. Et pour ça, préparer des ordinateurs, préparer toutes les connexions pour le travail à distance. Et ensuite, mettre les locaux sous alarme, puisque nous avons pris la décision, j'ai pris la décision de fermer totalement notre siège. Et derrière commence le change management. Tout de suite, on rentre dans cette, après avoir alloué bien évidemment les tâches et les fonctions. Et on avait, nous, trois grands angles qu'on a partagé, que j'ai partagé tout de suite en Teams à tous les collaborateurs salariés, puis aux conseillers. C'est le premier, c'était préserver l'emploi, préserver la compétitivité, préserver la trésorerie. Donc, on s'est mis, l'action 1, c'était quand même de se protéger. Protéger, le mot guerre a été employé par le président et repris il y a quelques secondes, mais on voit bien qu'on avait une agression externe, et face à cette agression externe, il fallait être très réactif. Et on a pris la décision d'être plutôt actif que réactif, c'est-à-dire anticiper la réflexion, l'action et l'adaptation. Et que je mettrai tout ça dans le change management, parce que ça a été la ressource clé, ça a quand même été les équipes. Et cette capacité aux hommes et aux femmes qui dirigent nos réseaux et qui ont des fonctions assez différentes, que je sois au siège ou conseiller en immobilier indépendant, parce que je le rappelle, moi je dirige le groupe Digiterreux, c'est les marques Capi France et Optio, mais donc c'est majoritairement des conseillers sur le terrain. Et donc, on a eu cette mise en route de systèmes de techno, très important pour le lien, entre autres, et d'allocation des tâches. Ça allait de la relation avec les actionnaires, la relation, moi je suis administrateur de l'UNIS, du syndicat d'immobilier, on a eu des réunions tous les jours, un COMEX matin et soir, pour faire le point et avancer très très vite, décider très vite et partager l'information avec nos collaborateurs pour qu'ils puissent rentrer en action avec 4-5 axes majeurs sur lesquels je reviendrai. Mais voilà, oui, effectivement, tout va très très vite. La qualité de l'information, la qualité de la distribution de l'information pour aider chacun à la digérer et à se mettre en mouvement, ça a été critique.
Je vais rebondir sur votre discours, Olivier. Effectivement, cette nécessité de récupérer l'information pour mieux décider. Donc, au premier rang desquels la gouvernance, vous avez serré le nombre de réunions avec votre équipe proche. Vous l'avez pas évoqué. Vous allez peut-être y revenir. Je crois que, enfin, Yann, c'était à votre initiative. Vous aviez créé un groupe Facebook. WhatsApp, avec des têtes de réseau pour partager. Enfin, je sais que chacun d'entre vous avait peut-être, vous êtes connecté vraiment de très près à votre équipe proche de façon beaucoup plus fréquente. Est-ce que vous pourriez l'évoquer, s'il vous plaît, un petit peu ?
Alors, il y avait déjà un groupe WhatsApp, puisqu'on travaille au quotidien avec les réseaux depuis longtemps. Il faut quand même pas l'oublier et le remettre en perspective, parce que c'est un des points forts qui nous a permis aussi d'avancer rapidement et d'avancer de manière solidaire. On a constitué ensemble l'AMIPI, l'association de partage des mandats exclusifs. On y siège régulièrement, on s'y retrouve. On a cofondé bien ici avec les réseaux historiques également. Donc on a cette habitude du partage. Et c'est vrai qu'on a su montrer notre différence lors de ces périodes en termes de communication. On a été les seuls à savoir communiquer ensemble, comme un seul homme ou une seule femme, vers l'extérieur. On a multiplié ces canaux de communication. Et puis évidemment, en interne, mais comme ça a été évoqué, mais je ne vais pas revenir trop là-dessus, toutes les entreprises ont archi-communiqué, justement pour être dans la création de solutions. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de réponse. Il fallait les créer. Donc toutes et tous, dans nos organisations respectives, on a multiplié les canaux avec nos instances. Dans un réseau de franchise, on a des régions, on a des conseils régionaux, on a des présidents de région, on a des conseils nationaux, on a des groupes utilisateurs, on a des groupes projets, on a des confrères, on a des services. Et on a travaillé sur cette pêche à l'information. Plus évidemment l'information qu'on pouvait aller chercher auprès des ministères, auprès des gouvernants, pour essayer de se forger un avis et puis de réduire finalement, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a fait, de réduire ce qu'on appelle le time to market. Hein, on a l'habitude dans un réseau très établi de livrer des dispositifs, des outils, des services qui sont totalement élaboré, ben là, il nous manquait une partie de la réponse. Donc on a réduit ce temps pour délivrer beaucoup plus vite au réseau. Et comme l'a évoqué Christine, l'ambition, c'était de garder le réseau sous pression. Alors sous pression d'activité, sous pression mentale, sous pression positive, si tant est qu'on puisse parler de pression positive. Donc on s'y est attaché avec une communication évidemment extrêmement renforcée.
Christine ? On n'a jamais autant communiqué que pendant ces périodes de confinement. Et c'est vrai que cette communication, elle était nécessaire. D'abord parce qu'il fallait qu'on puisse faire des échanges d'idées pour pouvoir retrouver des repères les uns les autres. Et comme le dit Yann, le fait de se connaître et d'avoir l'habitude, de discuter, d'échanger sur des sujets structurants comme la MEPI ou bien ici, nous permettent de nous comprendre très vite. Et puis ça nous permettait également, entre nous déjà, de corréler les informations et de les vérifier. Parce que, juste en retour en arrière, il faut savoir que cette période, on avait information, désinformation, toutes les 3 minutes, et qu'il fallait, au regard de nos collaborateurs, de nos réseaux, et entre nous, qu'on vérifie l'information qu'on allait pouvoir transmettre. Est-ce que c'était la bonne ? Donc ça, ça a été un vrai sujet, et cette ampleur de la communication, avec ces outils digitaux, c'est extraordinaire. C'est qu'on peut être connecté en permanence, et vraiment, moi, j'ai cette sensation, on n'a jamais autant été en contact, les uns avec les autres, que pendant ces 2 mois de confinement, alors qu'on était tous enfermés. Et c'est vrai que le digital, puisqu'on est aujourd'hui sur un sujet PropTech, c'est le digital, mais heureusement qu'on avait déjà tous ces outils, sachant qu'on a une vraie agilité, une vraie réactivité, on en parlera, c'est vrai que l'être humain a quand même une résilience et une force de créativité, de réaction qui est extraordinaire, pour mettre en place et développer des outils. On a développé des outils à la vitesse qui a été peut-être divisée par 10 par rapport à ce qu'on aurait pu faire dans un projet classique annuel traditionnel. Stéphane ?
Alors, après avoir mis tout le monde à l'abri, on a cherché, je crois qu'elle l'a dit, un circuit court. Un circuit court. Et un circuit court, c'est mettre une organisation de crise en place. Une organisation de crise, c'est pas automatiquement le COMEX de tous les jours. C'est un COMEX beaucoup plus élargi. Il y a des intervenants comme la DSI qui ne siège pas au COMEX ou au comité de direction qui vient. On fait un comité de direction en général une fois par mois. On balaye l'intégralité des sujets dans la journée. On déjeune ensemble. Là, on en faisait un d'une heure tous les jours. Tous les jours à 10h, et les outils nous permettaient, on était en visio, alors bien évidemment avec la chemise en dessous et le short en bas, hein, comme tout le monde, mais c'était tous les matins à 10h, comité de direction, et ça nous permettait de nous réorganiser. En effet, on livrait, avant même que ce soit terminé, mais on livrait l'information qu'on avait, une très très grande connexion avec le réseau au travers des consultants qui organisaient des réunions quasi tous les 2 jours, des réunions régionales en visio, mais des points de 10-15 minutes seulement pour informer sur ce qui se passait ou ce qui allait arriver. Donc une vraie connexion terrain, et ça a ça a réorganisé l'information, le flux et le flux de l'information. C'était vraiment une bonne chose. S'agissant de la tête de réseau, il y a un, la crise nous a rapprochés alors qu'on était déjà plutôt bien connectés, mais elle a libéré surtout la parole. C'est-à-dire il y a une fluidité de l'information sans frein. C'est-à-dire qu'on se disait les choses, alors qu'on est quand même tous un peu concurrents autour de la table, on se disait les choses et assez, et je trouve que ça a fluidifié et ça a libéré un peu les échanges entre nous, et ça c'est plutôt une bonne chose.
Ok, merci beaucoup. Donc ce que je vois un petit peu, c'est que vous avez adopté plutôt une stratégie de meute. Vous avez agi ensemble pour finalement mieux survivre, mieux partager l'information, mieux partager les représentations, parce que malgré tout, et ça par rapport aux interviews que nous avions faites ensemble, cette crise a quand même été une rupture dans vos modèles mentaux. Vous n'aviez jamais vécu ça. Enfin, il faut quand même le rappeler. C'est quelque chose quand même de très fort. Et là, en situation de grosse incertitude, il faut partager ses représentations, agir de concert. Tout ça, ça a été un vecteur de survie. Et finalement, ensemble, vous avez mieux résisté et vous avez été, sur ce côté-là, résilient. Il y a quelques questions dans le chat, mais on y viendra tout à l'heure parce que ça décale par rapport au sujet actuel. Vous l'avez un petit peu abordé. Toutefois, j'aimerais qu'on revienne sur les plans, les stratégies que vous aviez dû abandonner. Donc, vous aviez une vision au départ et puis finalement, le contexte change. Qu'est-ce qui a changé? Quelles innovations vous avez impulsées dans vos process, dans vos procédures? Donc, il y a une adaptation que vous avez mise en place, mais peut-être aussi un renoncement à vos anciens façons de faire. Et j'aimerais que vous en parliez un petit peu. On va peut-être commencer avec Olivier, qui est à distance.
Oui, merci Nathalie. Effectivement, on a parlé des actions, je dirais plutôt matérielles. Mais derrière, on a eu des déploiements. Alors nous, dans nos modèles, on avait la chance d'avoir déjà des conseillers, donc nos commerciaux en immobilier, déjà déployés en télétravail. Donc ça, c'était vraiment une force, puisqu'ils étaient déjà habitués à ne pas avoir de local pour travailler, d'agence physique. Donc c'est vrai que sur cet aspect-là, toutes les relations traditionnelles et quotidiennes avec eux étaient digitales, mais il y avait un certain nombre, bien évidemment, de réunions, et à peu près 200 par mois, physiques, et ces réunions se sont arrêtées. Donc là, on a redéployé des conférences, on a alimenté des formations, parce que très, très, très rapidement, l'homme est fait ainsi, il s'adapte, et on va chercher les opportunités que représente cette crise. On faisait nos recrutements, par exemple, en physique, on les a basculés par des Teams chaque semaine, et on a remplacé ces rendez-vous physiques par de l'interaction digitale. La techno, en fait, elle a été là en termes de soutien, et elle a permis la faisabilité sur un plan scalable. La scalabilité, là, qu'aiment tant les Américains, cette capacité à se déployer à grande échelle. Et ça a vraiment été une force et un atout majeur, surtout quand tout est en place. On a été, par exemple, inondé d'appels téléphoniques. Heureusement, on avait changé notre solution quelques mois avant. Mais par exemple, notre CRM n'était pas adapté. Depuis, c'est devenu un projet prioritaire afin d'équiper toutes nos équipes dédiées à l'accompagnement quotidien et donc, entre autres, à la réponse téléphonique, aux webinars, aux emails, d'outils permettant de savoir qui a appelé, quelle réponse a été donnée, etc. etc. Et donc, dans le soutien des conseillers, j'ai envie de dire qu'on avait même deux axes. Un axe qui était leur activité. C'est la partie digitalisation, formation, action gouvernementale. Donc ça, c'était du quotidien. Et puis, on avait un axe plutôt financier. C'était la gratuité de nos services, le soutien financier. Parce que très rapidement, quand on voit que la crise s'installe, que le confinement est total, on voit bien qu'il faut déjà réfléchir à l'après. Et comme on a une faible visibilité sur la durée, même si on savait que ça durait au moins un mois, on a déjà rentré en mouvement pour se dire « Ok, là, on la prend plus ou moins de plein fouet, mais quelle va être notre action quand on va sortir, parce qu'on n'en sortira pas indemne, et pour en sortir plus fort. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour les Américains. Mon président disait « Transaction is my best friend ». C'est dans ces moments de crise, si je les prends correctement, c'est comme le surfeur, je surfe sur la vague et je sors grandi plus fort. Et là, je crois vraiment qu'elle a permis une accélération de la mutation. Alors, bien sûr, ça a eu des impacts, entre autres sur les collaborateurs qui se sont énormément mobilisés pour accompagner le changement et en prendre possession et l'accélérer. Et malgré le télétravail, on voit que certains se sont énormément consacrés à encadrer cette mutation et accompagner au mieux ceux dont on a quelque part la responsabilité, parce qu'eux n'avaient pas la chance d'être sur le siège, par exemple. Et donc, on a énormément partagé, comme un grand nombre l'ont rappelé. Donc, beaucoup de soutien grâce à la techno, mais vraiment, ce n'était qu'un véhicule, parce qu'au final, cette crise, c'était que de l'humain. Certains, on a eu des décès, malheureusement, on a eu des gens très touchés. Ça, c'est que de l'humain. Et donc, la techno est au service de l'humain et notre modèle est figital. Et je tiens à le rappeler, la techno n'était pas une finalité. Elle nous a permis de faire beaucoup de choses. Nous, on a perdu 80% de nos actes, mais on peut dire, beaucoup plus positivement, on a réussi à signer pendant les 2 mois de confinement au moins 20% de nos actes, ce qui était aussi une bonne surprise. Voilà. Donc, et le dernier point sur un plan plus stratégique, on est rentré dans des simulations aussi, de crash test, comme les appellent les fonds, pour voir un peu quelle pouvait être l'ampleur des dégâts si on perdait 50% d'activité, si on perdait 30% d'activité sur l'année 2020. Et donc, on a travaillé là plutôt avec les équipes financières et le comité de direction pour voir quelles pouvaient être les hypothèses de worst case scenario, le pire des pires, pour voir comment réagirait l'entreprise et comment elle était capable, parce que ça fait partie de notre modèle de considérer qu'elle est très résiliente, mais encore faut-il prendre les bonnes décisions au bon moment. Et pour le coup, dans le cadre du confinement, il fallait être rapide et précis, excessivement pragmatique. C'était pas de la haute voltige, hein, c'était vraiment du pragmatisme quotidien avec une visibilité à 12 mois, on va dire. Au-delà, on n'avait pas de visibilité.
Christine ?
C'est pas vraiment, je suis en train de réfléchir la question, les projets qui ont été peut-être annulés, enfin, pour notre part il n'y a pas eu d'annulation de projet, c'est plus un calendrier qui a été reposé, typiquement le CRM qui est un vrai sujet aujourd'hui dans le monde de l'immobilier a été peut-être avancé sur le calendrier de 2020, donc on a commencé par quelque chose voilà, qui concernait ce CRM en disant il faut qu'on délivre cet outil très très vite, ce qui a été le cas puisque en 3 semaines de confinement l'outil est sorti alors que c'était pas son calendrier d'origine. Mais tous les autres projets ont été menés à bout, c'est plus de nouveaux outils qu'il a fallu mettre en main, développer et mettre en main du réseau, et en tout cas veiller à ce que tout ce qui était nouvelle façon de travailler, nouveaux outils digitaux et cette fameuse innovation qui est en place depuis maintenant quelques années, qui n'était pas forcément rentrée dans les mœurs pour certains agents immobiliers sur le terrain parce que, estimant que voilà, les anciennes habitudes étaient peut-être encore ce qu'il y avait mieux à faire, se sont dit, mais là on n'a pas le choix. Donc une vraie prise en main des outils, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une organisation de nos métiers, une organisation du travail qui n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'on a connu, par exemple, en 2019. Donc, c'est vraiment une transformation du monde du travail, des codes du travail, une vraie prise en main des outils, mais pas, il n'y a pas de révolution sur, en tout cas, sur les projets. C'est plus voilà, un calendrier qui a été bousculé.
A été anticipé, enfin qui a été.
Voilà, il a fallu anticiper certains projets qui s'avéraient nécessaires, bien sûr, pour la sortie de crise.
Stéphane ?
Deux choses. On a eu des choses reportées et des choses qui se sont accélérées. Donc, les choses qui ont été reportées, c'est tout ce qui était évidemment engageant financièrement, notamment pour les agences. Il a fallu d'abord réduire la voilure pour avoir une visibilité sur la sortie de crise, pour ensuite, bien évidemment, pas annuler les projets, les faire repartir. Mais dans cette période, on ne savait pas quelle sauce on allait être mangé. Les Cassandres annonçaient des crises économiques en août, puis ensuite en septembre, puis je crois en octobre aussi. Puis en fait, un an plus tard, on n'est toujours pas dedans. Donc il fallait d'abord réduire la voilure. Donc des projets reportés qui ont été relancés pratiquement à l'été, hein, dès la sortie de crise, ont été relancés. Et des projets qui se sont accélérés. Je prends le cas, par exemple, de la visite virtuelle. Ça faisait presque 2 ans et demi qu'on avait contracté un accord avec un leader mondial de la visite virtuelle, Matterport, pour pas le citer. Et on avait vendu 7 caméras, quoi. Voilà, 7 caméras sur 580 agences, c'est un peu léger. Et puis, pendant la période de Covid, on a eu une anecdote, c'est qu'à Poitiers, notre partenaire de Poitiers a dit « j'ai fait 17 locs fermes pendant la période de confinement sur la base de la visite virtuelle ». Et on s'est retrouvé au mois de juin, à la fin du mois de juin, avec plus de 70 caméras. Aujourd'hui, c'est presque les trois quarts du réseau qui est équipé. Donc ça, c'est une accélération. Je pense que demain, la visite virtuelle, les outils, peu importe que ce soit Matterport ou d'autres, les outils de la visite virtuelle feront partie intégrante du métier d'agent immobilier. Et ça, on le doit notamment à cette période difficile.
Oui, c'est vrai que les réseaux sont déjà extrêmement structurés. Alors, comme ça a été dit, évidemment, tout le monde a fait des efforts financiers pour alléger les charges de ses partenaires. Tout le monde a travaillé sur des hypothèses crash test pour, en effet, projeter l'entreprise, la tête de réseau et le réseau. Ça, c'est une évidence. Au-delà de ça, un réseau, c'est déjà très structuré, avec beaucoup d'instances. Les outils de digitalisation, c'est pas nouveau. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. La signature électronique chez La Forêt, dès 2017, on faisait 100 000 actes par mois en signature électronique. Des mandats, des baux, des compromis, des avenants. Donc, je dirais de ce côté-là, rien de neuf sous le soleil. Le parcours client digitalisé, il existait déjà. Les groupes WhatsApp existaient déjà. Le Teams existait déjà. Rien de neuf. Où je rejoins Christine, c'est en effet les plus réfractaires à l'utilisation, à l'usage de ces technologies, se sont retrouvés là au pied du mur, et finalement avec pour seule alternative l'utilisation de ces outils auxquels ils ne croyaient pas nécessairement. Donc c'est plutôt une accélération, et là je te rejoins, de l'adhésion à ces différents outils. Et puis derrière, une stratégie qui est utilisée là encore dans tous les réseaux depuis des décennies, une stratégie bottom-up. Donc on travaille avec ce qui existe dans le réseau, les meilleures pratiques, on les remonte et ensuite on va les diffuser dans tout le réseau. Donc nous, ça n'a pas été la visite virtuelle à proprement parler, ça a été la visite en visio. On a lancé très rapidement pendant le premier confinement un service qu'on a baptisé VisioVisite, où finalement le négociateur, avec l'appui du propriétaire et le client potentiel de l'autre côté, faisait une visite virtuelle en visio avec du WhatsApp, avec du FaceTime, etc. et guidait le vendeur. Et là, ça nécessite en revanche un tout nouveau savoir-faire. Parce que il faut préparer cette visite. Le vendeur qui a repeint un pan de mur de son salon dans une couleur qui lui plaît vraiment particulièrement et sur laquelle il va vouloir passer 15 minutes, bah, finalement, peut-être que l'acquéreur, ça ne l'intéresse pas. Donc il faut avoir une toute nouvelle pédagogie pour préparer ce travail à distance. Donc non, pas de changement, pas d'abandon. En revanche, certains points de contact qui sont raccourcis et qu'on peut faire aujourd'hui avec le digital. C'est un enseignement majeur aujourd'hui. Tous les réseaux, toutes les agences utilisent pleinement les outils et ben, savent très... très basiquement, savent organiser une visio avec Zoom, couper son micro, allumer sa caméra, avoir de la lumière. Tout ça, tout le monde sait l'utiliser aujourd'hui. Donc, pas de changement majeur.
Alors, malgré tout, il a fallu refaire un petit peu les process commerciaux, les formations, l'approche, elle est quand même différente par rapport à ça. Donc, il y a eu quand même une grosse adaptation de votre part, malgré tout.
Oui, il y a eu une adaptation, mais une adaptation qui est rendue, là encore, qui est rendue possible parce qu'on a déjà, toutes et tous, depuis des années, des plateformes de formation digitale, de e-learning, et qu'on peut en effet déployer, presque en un claquement de doigts, déployer dans le réseau et former. On n'a jamais autant formé les collaborateurs, les franchisés, les gestionnaires, les assistants, assistantes, les managers que durant cette période. Donc, mais... ça reste quand même à la marge, j'ai envie de dire. Il faut toujours faire une estimation entre un mandat de vente, prendre une offre, signer un compromis. Il y a peut-être un peu plus de savoir-être. Et je crois que c'est là-dessus qu'on a travaillé beaucoup sur l'accompagnement de nos clients dans cette période. Nos clients qui étaient en attente de beaucoup de réponses, qui n'existaient pas sur le terrain. Il fallait les rassurer, les accompagner. Et l'un des enseignements, notamment du premier confinement, c'est que l'agent immobilier a su mettre en avant sa capacité d'expert local dans sa ville, qui connaît le notaire, qui connaît le gardien d'immeuble, qu'on peut appeler pour lui demander si l'eau est coupée, si la lumière est éteinte, qui connaît le banquier. Et ça a été une vraie valeur ajoutée de go-between, d'intermédiaire vis-à-vis de nos clients. Et c'est là-dessus qu'on a appuyé beaucoup.
Et c'est Nathalie, tu as raison d'y faire allusion, parce que quand on est avec des clients qui sont enfermés chez eux, des collaborateurs qui travaillent depuis chez eux, effectivement, il y a besoin d'avoir un relais sur le terrain. Et c'est vrai que le fait d'avoir des professionnels dans les agences immobilières à faire ce lien, comme tu le dis très bien, nous a permis de continuer à diffuser, à avoir un parcours et un projet immobilier qui allait jusqu'au bout pour nos clients. Et l'utilisation du digital, moi je trouve qu'elle a, il y a une vraie prise de conscience que ce digital peut être utilisé alors à bon escient, à bon dosage, hein, parce que je ne suis pas une convaincue du tout digital. Hein, pour moi, effectivement, le contact comme on l'a aujourd'hui reste primordial. Le client a besoin de nous rencontrer sur le terrain, ça c'est une évidence. Et on s'aperçoit par contre qu'on peut mélanger à la fois le digital, Olivier parlait de figital, on est tous en phase. Hein. C'est vrai que c'est le bon dosage des deux qui nous permet d'être particulièrement efficients. Et cette période a permis de dire, ben voilà, moi je veux faire une formation, peut-être qu'une formation en salle n'est pas forcément adéquate. Et le fait de délivrer des outils, de ne pas avoir le choix que de prendre ces outils digitaux, parce que de toute façon c'était ça ou rien, permet encore une fois d'avoir modifié ces façons d'appréhender les outils.
Olivier,
oui, alors je voulais rebondir sur ce que disait Yann. En fait, quand on a l'infrastructure comme nos réseaux, comme les grandes de l'immobilier, c'est assez simple de rebondir. Ensuite, on a l'infra, et ben, c'est un peu les rails du TGV, on fait passer plus de TGV, plus de contenu, plus d'enseignement. N'oublions pas qu'une bonne partie de la profession, entre tous les indépendants, hein, qui sont nombreux, indépendants, agences non rattachées à une franchise ou à un réseau, n'avaient pas cette chance d'être déjà digitalisés et d'avoir déjà implémenté des outils. Donc nous, on a eu cette chance, c'est grâce aux hommes qu'on a capitalisé quelque part sur 10 ans d'investissement. Le rattrapage avait quand même été très violent pour certains. Donc je pense à eux parce que, effectivement, Yann, tu as raison, mais notre point de départ, c'est qu'on avait déjà l'équipement, on avait déjà le savoir-faire, on avait déjà des équipes digitales. Dans mon COMEX, le patron du digital est membre du COMEX. C'est trop stratégique, c'est trop important. Et donc là, on partait avec un asset, avec un actif que d'autres n'avaient pas. Et après, si on a cet actif et les hommes pour déployer toutes nos initiatives, alors là, on fonce évidemment parce que la force du digital, c'est d'aller vite, c'est de toucher beaucoup de monde à la fois. Et c'est là où l'animation à nouveau est importante. On peut avoir le meilleur outil du monde. Si on n'arrive pas à rallier ses troupes pour qu'elles soient face à l'écran, c'est un peu aride quoi, comme solution. Donc voilà, ça me semble vraiment critique. Ça ne s'invente pas, il faut quand même avoir les bons collaborateurs au bon endroit. Et sur le plan des partenaires, parce qu'on n'en parle pas, je trouve qu'on a eu aussi des partenaires qui ont été très actifs, très réactifs. Moi, je vois notre assureur, il nous a passé un coup de fil, il a dit « toutes les voitures qui sont à l'arrêt, je vous les mets en flotte non roulante ». J'ai trouvé ça chouette pour une agence. Nos fournisseurs, on a eu des reports d'échéance immédiats, on a eu des annulations de charges avec des prestations qui étaient en partie fournies, donc c'était un vrai soutien. On n'en a pas parlé, mais on est quand même rentré dans une course où on s'est dit « préparons-nous au pire ». On est allé chercher les PGE comme un grand nombre d'acteurs de l'immobilier. En avait-on besoin à l'instant T? Pour ma part, pour le groupe qui est solide, non, pas du tout. Mais on avait tellement de scénarios super négatifs où tout allait s'écrouler que effectivement, j'ai passé trop de temps, je peux vous le dire aujourd'hui, parce que je n'en avais pas besoin finalement, vu l'année 2020 qu'on a réalisée. Mais pour mettre son entreprise et ses collaborateurs en sécurité, effectivement, on a ouvert un maximum d'initiatives. Et tout à l'heure, il y a un point qui me semblait très important. Probablement, on n'a pas changé notre stratégie. Mais très sincèrement, n'a-t-on pas changé la priorisation? L'ordre de priorité est là où nous avons affecté nos ressources. Moi, je peux vous répondre tout de suite que dans le groupe Digiteur, on a modifié l'allocation des ressources. Ce qui pouvait être un projet numéro 2, il est devenu 10 et le 8 est peut-être devenu 1. Parce que effectivement, les circonstances avaient changé. Et c'est là où on n'en parle pas. Il y a la résilience. Mais la résilience n'est le fruit que de l'audace et de l'adaptabilité. Et ça me semble vraiment critique. Parce que, oui, on se dit pas, on fait un reset, on annule tout. Mais on se dit quand même, la donne a changé. Qu'est-ce que je change dans mon approche? Où est-ce que j'investis? Mes hommes, mes euros, mes dollars, et comment j'avance?
Ok, donc, enfin, moi, ce que je vois quand même, bon, effectivement, alors pour certains, redéfinition de l'ordre de priorité, finalement, des choix stratégiques. Pour d'autres, finalement, et ça a été là, et puis on avance plus ou moins vite, on se redéploie. Mais en fait, vous avez fait quand même preuve d'une hyperactivité, hein, malgré tout. Vous ne l'avez pas forcément évoqué, mais pendant 2 mois, vous avez travaillé, on ne va pas dire H24, mais comme des fous. Vous avez fait preuve d'agilité, et cette agilité, bien sûr, elle a reposé sur les outils technologiques, comme vous l'avez énoncé, mais surtout sur l'engagement hors normes que vous avez fait preuve, et de vos équipes, hein, enfin, vous et vos équipes, et qui a permis, finalement, ben, là aussi, en fait, de surfer sur cette crise. Donc il faut quand même le remarquer, et on revient encore une fois sur les outils digitaux, et puis ben derrière, il y a quand même des hommes et des femmes sans lesquels ben, ça ne serait pas possible. Alors le dernier point, le dernier défi, c'est un petit peu un défi idéologique, hein, donc sur les représentations. Alors ça a déjà été un petit peu abordé, on va voir vos apprentissages, les leçons que vous avez tirées. Encore que bon, c'est un peu tôt pour tirer des leçons, mais déjà, si vous pouviez nous parler il y a un an maintenant, donc votre ressenti aujourd'hui sur ce qui s'est passé et comment vous voyez la suite.
Alors, on est dans le cadre des PDD, donc on parle de techno, on parle de PropTech, mais comme l'a souligné Christine, ce qu'on voit maintenant de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus évidente, c'est que le parcours client est hybride. Et en effet, il va aller picorer à un moment dans du présentiel, dans du physique, à un moment dans du digital, et parfois en totale contradiction. On a des consommateurs aujourd'hui qui vont nous dire « Jamais je signerai un compromis de vente sur mon téléphone parce que j'ai besoin de le lire, j'ai besoin qu'on me l'explique. Je suis pas coutumier du fait, donc je viendrai dans l'agence parce que la force des réseaux classiques comme les nôtres et historiques, c'est d'avoir des agences physiques. Je viendrai dans l'agence et puis finalement, de se rendre compte que son compromis, il peut le signer à distance, qu'il peut pas se déplacer, qu'il a un certain nombre de contraintes et qu'il va le faire. Donc les clients profite d'un parcours hybride selon les situations, selon les moments. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'offrir aux consommateurs ce parcours totalement présentiel en parallèle d'un parcours totalement digitalisé, ce qui existe dans les principaux réseaux. Le deuxième enseignement, c'est que les réseaux ont quand même démontré leur solidité, leur capacité à encaisser aussi ces périodes. Que ce soit Stéphane ou moi, on fait partie d'un même groupe, donc qui regroupe La Forêt, qui regroupe Guihoquet, qui regroupe Citia, qui n'a pas souscrit de PGE parce que le réseau était solide, était capable d'y faire face. On a ensuite, face à ça, des structures physiques. Et en franchise, les franchisés sont habitués à investir. Et ils n'ont pas eu de problème à investir dans de l'équipement pour leurs collaborateurs à ces moments-là, à leur acheter des ordinateurs portables, à leur acheter des casques, à leur acheter un équipement pour pouvoir travailler à distance, à mettre en place là aussi du VPN. Donc on se rend compte que quand même, la structure franchisée, elle a des ressources et elle a de l'avenir. Après, en ce qui concerne demain, les questions qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on doit être dans une surenchère de services digitaux ou est-ce qu'à contrario, on doit être dans une utilisation plus large des services qui sont aujourd'hui sur le terrain? Comment on arrive à traduire la valeur ajoutée de l'humain? C'est un vrai sujet. On sait qu'un collaborateur aujourd'hui, il a une couche évidemment très forte de savoir-faire, de technicité, et on les forme dans nos réseaux respectifs largement là-dessus. Et puis le savoir-être, qui est en train de gagner du terrain, et dans ces moments qui cristallisent les tensions et les interrogations, le savoir-être est de plus en plus important. Donc là aussi, il y a un parcours un peu hybride, hein, entre savoir faire son métier techniquement, savoir parler de pathologie du bâtiment, savoir rédiger un compromis, savoir expliquer des clauses de rétractation du financement, et puis à côté, tout simplement savoir décrocher son téléphone et rassurer un consommateur. Donc je pense que ça va être cet assemblage qu'il va falloir affiner dans les années qui vont venir. Et puis indubitablement la technologie, et ça a été dit, qui nous permet aujourd'hui d'être plus efficaces sur un certain nombre de points de rendez-vous, sur des manières de passer des messages, de passer des informations. On a besoin de se retrouver, on a tous besoin et envie dans nos réseaux qui sont très structurés autour de moments importants. On a besoin de se retrouver physiquement, de parler, d'échanger, mais pour un certain nombre de sujets, on peut aujourd'hui, avec les outils qui sont disponibles, gagner du temps, gagner de la productivité et de la proactivité. Donc en résumé, pour moi, c'est ça, c'est trouver le juste assemblage entre l'humain, le digital, le savoir-faire technique, le savoir-être, le présentiel, le distanciel, et trouver ce bon assemblage pour les années à venir.
On le voit, c'est vraiment une question d'équilibre et de bon dosage. Hein. Je le disais tout à l'heure, donc je ne reviens pas sur ce que vient de dire Yann. Tout ça ne peut être productif que s'il y a une vraie compétence du professionnel. Et ça, il faut le dire, il faut le crier haut et fort, c'est que un professionnel se doit d'accompagner un client, donc il ne faut pas occulter cette partie de monter en compétence. Un commercial, un négociateur, une assistante doivent être capables de porter plein de sujets. La fiscalité, l'urbanisme, l'architecture, tu parlais de pathologie du bâtiment, mais bien sûr, ô combien c'est important. Donc ils doivent être capables d'avoir cette compétence, parce que c'est cette différence-là que, en fin de compte, l'être humain que nous sommes au quotidien va pouvoir amener. C'est mon intelligence à un moment donné parce qu'il y a une problématique et j'ai la bonne réponse parce que j'ai un savoir-faire, mais j'ai aussi une grosse compétence technique et je vais apporter le vrai bon conseil à mon client. Et cette prise de conscience que ça, ce rôle humain et cette rencontre humaine, elle est juste importante. Regardez au combien aujourd'hui on attend de se revoir, on attend de se rencontrer. Enfin, on n'a qu'une envie, c'est d'aller boire un café, une terrasse, en disant, mais oh, quand est-ce que je vais aller manger un steak frites sur les quais de la Seine ? Enfin, et ça, c'est une vraie prise de conscience. C'est donc, on attend, pour moi, dans les mois et les années à venir, que cette PropTech nous amène de quoi faire notre métier le plus vite possible et le plus qualitativement possible pour nous libérer du temps, pour qu'on soit dans ce qu'on sait faire vraiment, c'est être ensemble.
Alors, oui, on est dans un univers PropTech et on doit parler de technologie, et c'est paradoxal puisque, que ce soit Yann ou Christine, on revient et on met l'humain au centre. C'est vrai que tous les outils technologiques aujourd'hui existent déjà, et ce depuis longtemps. Chez Guyoquet, ça fait 4 ans qu'on a la signature électronique pour 100% du réseau. Je vous l'ai dit, les caméras depuis 2 ans et demi. Donc il y a eu une accélération et l'humain au centre et sa formation. Et l'occasion pour nous, en moyenne, un collaborateur chez nous, ça fait entre 10 et 14 ventes par an. C'est 14 fois la possibilité d'apprendre et de réapprendre. Et plutôt que d'être en formation juste en présentiel ou en digital, d'être en situation réelle et d'apprendre et d'apprendre encore. Les outils comme la plateforme d'e-learning qui rendent disponibles dans le téléphone des petits modules de formation qui soient apprenants ou rappelants. Alors je dis apprenant, c'est 20 minutes, c'est motion design, c'est sanctionné par un quiz. Et rappelant, c'est la possibilité en 1 minute 30 de préparer un rendez-vous. Donc tout ça, c'est disponible. C'est aujourd'hui beaucoup mieux utilisé. Et on a eu la chance d'avoir cet événement. C'est presque une opportunité de sortie de crise, de remettre la formation au centre de tout pour améliorer notre niveau de jeu, parce que je pense que c'est l'avenir. Avoir des gens beaucoup plus compétents, parce que c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos clients, avoir des gens qui savent répondre à tout un tas de sujets et à toutes les questions qui se posent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est au centre de tout, l'humain d'abord, et sa formation et son évolution, plus que la technologie.
Il nous reste peu de temps, donc je vais conclure. Et puis, il y a une petite question aussi dans le chat que je vous poserai. Alors, moi, ce que je vois, malgré tout, et puis par rapport aux entretiens que nous avions effectués, vous avez été quand même conduit à alléger et à simplifier vos procédures, malgré tout, pour gagner en agilité. Vous aviez, je pense à vous, Yann Laforêt, avoir quelque chose dans les procédures qui était très établi, très... Et ça, les représentations ont changé là-dessus. Alors, je ne sais pas si ça va être durable, si on va rester sur cette agilité-là. Donc, il y a quand même des apprentissages sur ça. Une prise de conscience qu'on peut tout faire à distance avec certaines limites, hein, Christine. Effectivement, la présence sociale, elle peut se faire effectivement via les outils digitaux, mais la rencontre, le lien, ce qui se passe en présentiel, et on on ne l'a pas abordé, on l'abordera certainement à la prochaine édition du Salon RENT, mais tout l'enjeu du management à distance, hein, parce que comment on implique les équipes, et je pense à Olivier Colcombé, on en avait parlé lors de notre entretien, c'est que voilà, en fait, tout le langage corporel via un écran, il est plus compliqué. Comment on engage les gens, bon, ils sont derrière Zoom, est-ce qu'ils y sont pas, ou Teams, enfin, etc. Donc c'est pas si facile, mais en tout cas je vois quelque chose d'une prise de conscience d'une nécessité d'être agile, et ça quand même remet en cause à mon sens vos pratiques. Après, est-ce que cet apprentissage sera durable, parce qu'on a quand même des modèles mentaux qui sont persistants, donc déjà c'est pas sûr. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a toujours un discours, hein, pour apprendre, bon, il faut s'éloigner de son discours. On a tendance, pour être légitime, à s'auto-persuader que tout va bien, qu'on est résistant. Est-ce que pour autant, ça occulte pas non plus les faiblesses de son organisation? Enfin, la question reste posée. Voilà, donc il y a une petite question donc dans le chat, c'est: comment envisagez-vous l'évolution des bureaux connectés aux gares flexibles, partagés, sécurisés? Donc ça déborde un petit peu notre propos, mais je ne sais pas, peut-être Olivier qui ne s'est pas exprimé depuis longtemps, on va lui demander.
Oui, merci. Alors c'est une question très intéressante, et je rebondirai deux secondes sur... Il y a quatre mots pour moi qui étaient critiques, c'est cette notion de combativité, d'audace, d'agilité, et quelle énergie déployer. Mais soyons aussi honnêtes, ce n'est pas possible de tenir le rythme pour nos équipes avec 3 années de Covid. C'est épuisant. Et le manque de relations physiques, on doit quand même se préparer à très probablement toute l'année 2021, voire une partie de 2022, à les avoir un peu érodés. Donc, il faut vraiment qu'on maîtrise le bon niveau et une certaine liberté. Et ce sera ma transition pour parler de comment on envisage les bureaux. Eh bien, moi, je vais vous dire, on avait des centres de coworking, ils étaient très adaptés. On en a encore un à Paris qui est très utilisé, mais malheureusement, plus de formation, plus de salles de réunion. Donc, il faut retoucher le modèle, et il fonctionne, et on l'a mis en œuvre à Montpellier. On a redéployé une partie de nos surfaces qui étaient des surfaces liées à la formation physique. Et on a accueilli 3 startups qui sont installées en prestation de services et qui partagent notre campus. Et pour eux, ça leur donne accès effectivement à des bureaux dernier cri. Pour nous, avoir des surfaces qui étaient libres et disponibles, qu'on utilise. Et puis pour nos collaborateurs, c'est intéressant aussi de croiser d'autres populations. Et là, c'est entre autres des pure tech. Tout ça va évoluer, bien évidemment, des plus petites surfaces pour des petites équipes un peu modulaires, mais qui louent 24-24 les locaux, parce qu'ils ont besoin, malgré tout, comme tout un chacun, de lieux de rencontre et de rendez-vous. Et l'autre aspect, c'est que sur nos collaborateurs, nous, on est 5% en télétravail, par précaution. Mais je constate quand même qu'un certain nombre viennent pratiquement 1, 2, voire 3 jours par semaine, même si on limite, on a des histoires de planning, etc., pour être vraiment respecter les règles barrières. Mais oui, après un an maintenant, déjà un an d'anniversaire, je vois que nombreux sont ceux qui commencent à revenir un peu plus longtemps et un peu plus souvent, parce que le lien physique est critique. Et pour nos clients finaux, je crois que ça les a aussi poussés, parce qu'on était tous digitalisés. Mais sincèrement, certains n'auraient jamais signé un mandat ou un compromis ou que sais-je digitalement s'ils n'avaient pas été un peu forcés. Donc ça a à nouveau forcé le rythme. Et dans les échanges, Nathalie, vous soulignez tout à l'heure notre capacité à conserver ces dispositifs. C'est évident qu'aujourd'hui, il faut résister à cette tendance de revenir aux habitudes du passé. Prendre le bon côté de cette mutation qu'a engendré le Covid, de ces évolutions, et pas revenir à une routine du passé, mais bien à l'intégrer pour que ça soit devenu normal, si je puis dire, dans une norme acceptable. Et effectivement, quand on digitalise, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour être scalable, mais c'est aussi pour pouvoir se consacrer à la valeur ajoutée qu'un humain peut apporter et qu'un outil n'apportera jamais, aussi fort soit-il. Voilà, donc pour délivrer le bon service aux conseillers pour nous ou au client final, le digital est un outil fabuleux, mais il ne fait pas le job à la place de nos collaborateurs ou de nos conseillers, qui, eux, sont une ressource et des talents indispensables à notre réussite. Et c'est clairement, nous, chez Digit, Capi France Optium, ce qui nous a permis de résister, de muter et d'être toujours présent et plus fort en sortie de crise qu'en entrée de crise.
Merci, merci Olivier. Donc notre temps est terminé. Je vous remercie donc chacun d'avoir participé à cette table ronde. Bon, on a vu que vous avez été, vous avez quand même surmonté pas mal les défis. Moi, je retiens surtout le collectif, l'intelligence collective et cette agilité dont vous avez fait preuve. Et c'est voilà. Donc les apprentissages, peut-être qu'on les verra sur les années qui viennent. Merci encore et puis bonne journée à tous.
Merci.
Merci Nathalie, merci à toutes et à tous.
Merci.